Aujourd'hui, je me fais un trou en un. Autrement dit, la Golf GTI Performance. Depuis que j'ai commencé à m'improviser chroniqueur automobile, les gens ont très vite pris l'habitude de me demander, avant de savoir comment je vais, quelle est ma voiture préférée. Ça fait 12 ans que j'écris des chroniques sur la bourse et soudainement, je m'occupe de voitures et tout le monde se fout totalement de la bourse, des changes ou de la couleur du Bitcoin. Je dois reconnaître que rouler le long de la côte amalfitaine au volant d'une Porsche Targa a quelque chose de plus sexy que passer sa journée derrière une dizaine d'écrans qui clignotent. Je ne l'ai jamais faite, la côte amalfitaine, mais si Porsche est dispo pour me prêter une 911 Targa, je suis preneur. Toujours est-il que chaque fois que je rencontre quelqu'un, l'éternelle question me retombe dessus. Alors, c'est quoi ta voiture préférée ? Habituellement, je me tue à essayer d'expliquer que ça dépend, parce que ça dépend, ça dépasse. Oui, qualifier une voiture de parfaite, ça a quand même quelque chose à voir avec ce que vous attendez. Imaginez si vous voulez aller frimer sur les parkings des boîtes à la mode et que vous vous pointez avec une Renault Scénic diesel de 2008, votre retour à la maison risque d'être solitaire, ou alors à la limite avec une dame de la fondation des parkings qui aura eu pitié de vous. Dans ce cas-là, il va falloir se dépasser un peu plus et trouver un truc plus original, type Audi RS3, si vous n'êtes qu'un pauvre employé d'une banque qui a pignon sur rue, ou alors une Bentley Continental GT, qui n'est qu'une copie britannisée de la BMW haut de gamme, mais avec ça, ça devrait mieux se passer. Et puis si vous voulez aller chez Ikea, il va falloir renoncer à la Mazda MX-5, à moins que vous n'alliez là-bas que pour acheter 3 packs de 12 bougies absolument indispensables pour aller chiller out sur votre terrasse. Là, il va falloir passer à autre chose. Et puis, si vous êtes collectionneur de Bouvier Bernois, il ne servira à rien de se pointer chez Lambeau pour acheter la dernière Huracan Performante, mais il faudra plutôt vous rendre chez Peugeot, mais du côté utilitaire. Un joli Peugeot Partner sera parfaitement saillant pour sortir le week-end et acheter les 14 sacs de croquettes hebdomadaires nécessaires. Vous comprendrez donc aisément où je veux en venir. La voiture parfaite n'existe pas. Pourtant, l'autre jour, en revenant de mon week-end en Golf GTI Performance, je n'étais pas loin de me dire que je l'avais trouvé. D'ailleurs, je l'ai peut-être trouvé. D'abord, il faut reconnaître que la Golf GTI, c'est pas le modèle le plus récent qui existe dans le monde automobile. C'est bien simple, le concept est presque aussi vieux que moi. C'est dire, cette fois, Volkswagen a payé un coach de remise en forme qu'il a mis au véganisme et au jus d'épinards. Le résultat est époustouflant. La belle a une robe retouchée, une calandre agressive et des jantes spectaculaires. Quand vous rentrez dedans, vous vous dites que les ingénieurs du centre de l'Allemagne ont largement emprunté ce qui fait le succès de certaines marques de luxe associées à Volkswagen, Audi pour ne pas la citer. La technologie est bien présente, encore un peu plus que dans la Polo, voire l'essai précédent, et de la Hub GTI, encore plus, voire encore essai précédent. Forcément, c'est la grande sœur de la fratrie. Les écrans tactiles et les compteurs digitaux sont bien présents. La déco intérieure s'inspire de la lignée Golf, et on retrouve donc le tissu à carreaux qui ne ferait pas rougir William Wallace ou Conrad MacLeod. Mais c'est surtout ce sentiment de terrain conquis, ce sentiment de déjà-vu, mais en mieux, qui me faisait le plus d'effet. Je vous avoue que ce n'est pas la première fois que je roule en Golf GTI. Probablement que j'ai même roulé dans à peu près toutes les générations en posant mon séant dans celle-ci. Je dois dire que je me suis retrouvé comme à la maison. Mais en plus récent, en plus moderne, en plus beau, en plus propre, et en plus allemand, et voire en plus mieux bien. Une fois que je me fus imprimé l'esprit golf, ce qui se fait assez rapidement, tellement tout est au bon endroit, bien que j'avoue platement ne pas avoir cherché trop longtemps comment fonctionnaient les modes de conduite, vous savez depuis le début de ces chroniques que mon truc c'est pas trop le mode éco, ou le mode city, ou confort, ou ennuyeux comme on dit chez moi, non, moi c'est mode sport ou rien du tout. Donc j'ai pas cherché. Grosse erreur! Parce que pensant que j'étais en mode sport, je suis parti dans les Alpes bernoises et après m'être retrouvé en travers dans plusieurs virages en voulant dépasser une Suzuki Swift de 1934 et m'être puissamment énervé contre les ingénieurs de Wolfsburg, les maudissant d'avoir fait un mode sport aussi mou et survireur, j'ai constaté benoîtement que j'étais en mode confort. Après m'être arrêté pendant 10 minutes pour pleurer de mon incompétence et me flageller avec des orties pour me punir de cette erreur impardonnable, je remontais dans mon destrier avec la ferme intention de voir une fois pour toutes ce qu'elle avait dans le ventre ou sous le capot en l'occurrence, pas un moteur électrique en tous les cas. Dès les premiers 153 mètres, j'avais le sentiment que le joli petit veau qui m'avait transbahuté jusqu'au lac de Thun venait instantanément de se transformer en méchant bison pas content parce que les Indiens venaient de tuer son fils avec des arcs et des flèches. L'agressivité du 2 litres de 245 chevaux donnait immédiatement envie de se refaire à peu près tous les cols de la région dans les deux sens. Malheureusement, les petites voitures bleues avec des appareils photo posés au bord de la route m'obligeaient à écourter l'escapade, ou tout au moins à se la faire en version soft. Néanmoins, la boîte à vitesse DSG à 7 rapports m'a fait une forte impression et la coordination du pétaradage de l'échappement à chaque changement imperceptible de rapport lui donnait un charme et des flatulences fort agréables, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Là, enfin, je retrouvais ma Golf en tenue de route et surtout en sortie de virage. Quel bonheur! Et là, je vous le dis tout net, mais qui peut avoir envie de rouler en mode confort avec un truc pareil? En conclusion, quand on regarde l'équipement de l'animal, le prix plus que correct, les options indispensables que je n'ai même pas eu le temps de tester, le GPS nécessaire, vu que je confonds toujours le nord et le sud, l'espace intérieur et le bonheur que l'on a lorsque l'on roule avec, vu que j'ai dû me faire violence pour ne pas partir faire le tour d'Europe histoire de tester mon adaptateur de prise électrique, il se pourrait que la Golf GTI Performance soit finalement la voiture parfaite. Alors oui, encore une fois, si vous voulez aller chercher un canapé Château d'Aix et ramener Victoria Silvstedt avec vous, ça va être compliqué. Mais si vous avez moins de 3 enfants en âge de ne pas conduire et que vous partez pas en vacances au camping des Flots Bleus avec la tente et la piscine gonflable, ça devrait vous convenir parfaitement. Personnellement, je me suis éclaté au volant de cette voiture. La version supérieure, qui possède un moteur de 310 chevaux, est à peu près inutile à mon sens, à moins de vraiment vouloir payer plus d'impôts, ce qui doit forcément mieux fonctionner outre Sarine. Quoi qu'il en soit, je suis tombé amoureux et je pense sérieusement lui demander sa main dans les 12 mois à venir. Parce qu'après tout, la voiture parfaite, c'est toujours une question de compromis. Je remercie donc vivement AMAG Genève pour m'avoir donné la chance d'enchaîner les essais avec la Polo GTI, la Up GTI et la Golf pour terminer. Le choix n'est pas facile à faire, mais disons que c'est une question de génération. Mes cheveux gris conviennent mieux à la Golf et puis, à noter que lors de mon essai de la Golf, c'est la première fois que je ne me retrouvais pas bloqué derrière une Dacia Duster dans un col. C'est donc un pas de plus visiblement en direction de la perfection.